We have confidence in our case that it is impeachable, and this president is impeached for life, regardless of any gamesmanship on the part of Mitch McConnell.
Donc, 16h49, Raphaël Jacob, c'était la voix de la leader démocrate à la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, qui disait, écoutez, nous, on a confiance dans le dossier qu'on va acheminer au Sénat.
Oui, et quand on parle d'acheminer, ben là, ça se fait officiellement aujourd'hui, après des semaines d'hésitation dans lesquelles on a un petit peu tergiversé du côté démocrate. Là, la Chambre des représentants, contrôlée, on le rappelle encore une fois, par le Parti démocrate, a voté 228 à 193. C'était une ligne de parti presque totale. Tous les démocrates, sauf un qui ont voté pour, tous les républicains contre, ont voté donc pour acheminer les mises en accusation qu'elle avait passées juste avant la pause de Noël au Sénat. On rappelle quelles sont les mises en accusation contre Donald Trump. La première, abus de pouvoir. La deuxième, entrave au Congrès. Et là, donc, le Sénat devrait commencer son procès en destitution le 21 janvier. Ça, c'est mardi prochain au plus tard. Dans ce Sénat-là, il va falloir expliquer un petit peu comment ça va fonctionner. Parce que, oui, c'est contrôlé par le Parti républicain, mais c'est plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'il y a quatre ensembles de joueurs à suivre. Le premier, bien évidemment, c'est le jury. C'est qui le jury? Bien, c'est le Sénat, c'est les sénateurs. Donc, républicains et démocrates, tous les membres du Sénat vont agir à titre de jury. Il va y avoir un juge, comme dans un vrai procès. Qui va être le juge dans ce cas-ci? Eh bien, le juge en chef de la Cour suprême des États-Unis, John Roberts, qui va présider la totalité du procès. Et puis après ça, comme encore une fois dans un vrai procès, tu vas avoir une équipe de procureurs et une équipe de la défense. Les procureurs, ça c'est important de le dire, ce ne sont pas simplement des avocats, ce sont des membres démocrates de la Chambre des représentants. Donc, Mme Pelosi, la leader du parti à la Chambre, a nommé aujourd'hui son équipe. Donc, ce sont des membres de son caucus, elle va puiser dans son caucus pour aller chercher des gens qui, après ça, au Sénat, vont agir comme procureurs essentiellement, un petit peu ce que la couronne ferait dans notre système légal. Et la défense, elle, va être assurée par les avocats de Donald Trump. Donc, ça va ressembler à ça au niveau de la formule. Et je t'ajoute aussi rapidement ceci. Il y a des règles additionnelles que le Sénat va suivre, notamment pas d'appareil électronique. Autrement dit, vous êtes sénateur, eh bien, vous ne pouvez pas même apporter votre téléphone intelligent lors des audiences. Et également ceci qui est quand même assez intéressant, assez important, tous les sénateurs vont devoir être assis, vont devoir être silencieux, ce qui n'est pas tout à fait habituel pour des politiciens, et surtout vont devoir être présents. Pourquoi est-ce que c'est important? Bien, pour la même raison que je t'ai déjà évoqué il y a quelques semaines quand on s'en est parlé, on est en pleine campagne présidentielle. On a les caucus de l'Iowa qui s'en viennent maintenant dans moins de 3 semaines, et tu vas voir des Bernie Sanders, des Elizabeth Warren et d'autres candidats qui sont également des sénateurs en fonction qui vont être contraints de siéger et de le faire en silence, on le rappelle, pour la totalité du procès.
Et ça pourrait durer combien de temps, ce procès-là, au Sénat?
Il n'y a pas de règle là-dessus. Donc, en principe, ça pourrait être fait en quelques heures, voire quelques jours, comme ça pourrait s'échelonner sur des semaines, voire des mois.
OK.
Politiquement, de ce qu'on en comprend, il n'y a pas beaucoup de volonté de part et d'autre pour qu'on s'éternise. Donc, ça devrait être relativement rapide.
OK, Raphaël, qu'en est-il de la question des témoins? Parce que les démocrates voulaient faire témoigner des personnes à l'appui de leur cause. Et je pense que les républicains n'étaient pas très chauds à l'idée d'avoir des gens qui viennent témoigner. On voulait se fier simplement et seulement à la preuve qui avait été accumulée là, dans la première partie du procès à la Chambre des représentants.
Tu fais bien de le mentionner parce que c'était ça le nerf de la guerre, ce qui a fait en sorte que justement on a tant hésité à acheminer les mises en accusation au Sénat, c'est que du côté démocrate, on voulait s'assurer avant que le procès commence qu'on obtienne certaines concessions, certains engagements de la part des républicains qui encore une fois sont majoritaires au Sénat, comme quoi ils allaient accepter qu'on fasse témoigner de nouvelles personnes, en fait qu'on fasse témoigner des gens, point, parce que à l'heure actuelle, il n'y a aucune entente. Donc, écoute, au final, Mme Pelosi a plié. Elle a acheminé les mises en accusation, mais sans obtenir ces concessions-là. Donc, la réponse à ta question, c'est qu'on ne le sait pas. On ne sait pas qui ou même combien de personnes vont aller témoigner. Donc, on pourrait avoir, en principe, là, un procès dans lequel bien l'équivalent de la couronne, là, l'équipe de procureurs de Mme Pelosi présente son dossier. L'équipe de défense de M. Trump défend le sien. Et il n'y a absolument personne qui témoigne. C'est possible. tout comme l'inverse est possible, c'est-à-dire que là, on se batte vraiment de façon très rude de part et d'autre pour faire convoquer les témoins les plus, je dirais, potentiellement explosifs. On parle de qui? Bien, du côté démocrate, on parlerait notamment de faire convoquer John Bolton, l'ancien ambassadeur ou l'ancien, pardon, conseiller de Donald Trump à la Sécurité nationale, qui, de ce qu'on en comprend, aurait des choses pas nécessairement très roses à dire à l'égard du président et de son entourage. Alors que du côté républicain, si on allait jusque-là, ben là, on voudrait aller faire témoigner Hunter Biden, le fils de Joe Biden, qui évidemment est lié à toute cette affaire-là avec l'Ukraine depuis des mois. Donc, ça pourrait aller jusque-là, tout comme on pourrait avoir un procès sans aucun témoin.
Et juste pour clarifier, est-ce que le président Trump, est-ce que c'est clair s'il va témoigner ou non?
Avec Donald Trump, tu sais comme moi que tout est possible, mais de façon plausible, de façon réaliste, à l'heure actuelle, c'est presque inconcevable qu'il témoigne. Donc, même s'il y a des témoins, normalement, tu vas me dire qu'on ne vit pas dans un monde normal. Actuellement, c'est vrai, mais normalement, il ne devrait pas faire partie des témoins.
As-tu vu ce que les démocrates ont laissé filtrer dans les médias? Hein? Une partie de la preuve qu'ils ont là, par rapport à la filière ukrainienne, puis c'est pas très, très joli pour M. Giuliani, l'ancien maire de New York et aussi avocat personnel de M. Trump.
En effet, et tu dois t'en rappeler, je veux dire, c'était ta blague dans la mesure où c'en était une il y a quelques semaines. Je ne sais pas si tu te rappelles quand tu avais comparé l'entourage du président à des méchants de Batman.
c'était pas ma formule, hein? C'est la formule, je ne sais pas c'est qui, là, mais avant que Trump soit élu, il y avait tout plein de personnages un peu louches autour de lui. Et puis, c'est quelqu'un qui a vu cette formule-là. Là. L'équipe de Trump ont tous l'air des vilains dans Batman.
Ben, sais-tu quoi? Je t'en présente un nouveau. Robert Hyde, qui est un donateur de Donald Trump, connu pour ses tweets assez peu distingués, on va le dire comme ça, et qui là devient un peu célèbre du jour au lendemain parce que les démocrates ont laissé couler certaines des preuves justement qu'ils ont accumulées pendant le processus d'impeachment au courant des dernières semaines, notamment des échanges entre ce monsieur Hyde-là, ce donateur de Donald Trump, et un associé de Rudy Giuliani, l'avocat de Donald Trump, dont tu parlais il y a un instant, une série d'échanges qui laisse comprendre essentiellement là, qu'il aurait essayé de faire surveiller l'ex-ambassadrice américaine en Ukraine.
Alors qu'elle l'était ambassadrice.
Exactement. Alors qu'elle était ambassadrice, on le rappelle pour la petite histoire, c'était l'ambassadrice nommée par Barack Obama qui après ça a été dégommée par Donald Trump, qui a été un des témoins les plus importants lors du processus d'impeachment à la Chambre des représentants il y a quelques semaines. Elle répète très clairement et elle est sans équivoque qu'elle a été congédiée de façon illégitime. Et donc, on apprendrait qu'essentiellement un associé du président aurait peut-être comploté avec un associé de son avocat, de l'avocat du président, pour faire suivre, potentiellement même harceler cette ambassadrice-là alors qu'elle était en fonction. C'est quand même pas rien. Et là, ça arrive, ça tombe, cette bombe-là, à quelques heures, voire quelques jours maximum du début du procès au Sénat.
C'est ça. Il est même question de quelqu'un en Ukraine qui demande de l'argent pour régler le problème.
C'est ça.
Ça a plus l'air d'un échange entre mafieux qu'un échange entre gens qui sont à côté, dans l'équipe du président des États-Unis.
Bien, dans le contexte, le mot procès est peut-être pas si mal choisi.
Parfait. Merci beaucoup, Raphaël. On te retrouve demain.
À demain.
Après la pause, nos chroniqueurs de la prochaine heure, Richard Therrien, Thérèse Parisien, Pierre-Yves McSween, Luc Ferrandez, et vous dire qu'en dernière heure, le Beach Club de Pointe-Calumet et dans le Pétrin pourrait voir son permis d'alcool révoqué. On en parle avec le journaliste Philippe Tessera-Lessard.